Guy Marchand, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous venez de faire paraître aux éditions Michel Lafond un livre, Le Guignol des buttes Chaumont. Alors, vous êtes excessivement connu pour votre musique. Notons la Passionata en premier, que j'aime infiniment, et aussi en tant qu'acteur dans des films prestigieux. Alors, Boulevard du Rhum avec Brigitte Bardot, Lino Ventura et d'autres dont nous parlerons. Clarinettiste de grand talent.
Vous exagérez, là. Hein.
Ah non, non.
Vous commencez à exagérer. Vous auriez plus de munitions après. Faites attention. Mais,
oh là là, j'ai des munitions secrètes, vous allez voir. Et puis, ce n'est pas une biographie. Vous dites que ce n'est pas une biographie parce que vous ne voulez pas raconter toutes les choses intimes, personnelles. Vous parlez de votre parcours de créateur, d'artiste, vous parlez du cinéma. Alors, ce n'est pas une biographie, c'est quoi ?
C'est pas tout à fait ça. C'est parce que mon parcours, n'a pas un grand intérêt, mon parcours. J'aime pas les biographies. Enfin, les biographies de Churchill, oui, ça m'intéresse. Mais l'histoire m'a toujours intéressé, mais moi, je suis pas un personnage historique. Biographie de chanteur ou d'acteur m'ennuie, la plupart du temps. Et les biographies d'hommes politiques, en ce moment, alors là, on y a droit, là. Hein. Il en sort un par jour. Hein, et ça me tombe des mains. Non, je voulais pas écrire une biographie. Je voulais raconter quelque chose. Je crois que je voulais épater ma jeune compagne, qui était professeure de français, d'anglais, de chinois, enfin, qui a une culture monstrueuse. Et elle m'a mis devant moi les promesses de l'aube de Romain Gary. Elle m'a dit, je sais que tu ne pourras pas écrire ça. Mais tu ne pourrais pas écrire des pensées. C'est elle qui a évoqué les bilans de rêverie. D'une vie d'un honnête homme, parce que je ne pense pas être un gentleman, mais je suis un honnête homme. J'ai la prétention d'être un honnête homme. Et quelque part, coucher ça sur le papier, ça m'a fait plaisir. Et donc, et en même temps, avec le métier futile, dont je suis très fier, parce que ce terme futile, d'ailleurs, ce n'est pas le bon terme, ça serait un métier léger. Et qui, avec l'âge, me fait comprendre que la légèreté, ça a été toujours ma recherche et que ça sera ma prétention finale.
Mmh. Alors là, à propos de légèreté, vous aimez Milan Kundera ?
Oui, ça c'est autre chose. Ça c'était une rencontre avec Milan Kundera, Romain Gary, des auteurs. Puisque je me mettais à écrire, tant qu'à faire, avoir des sources intéressantes. Qui m'ont fasciné.
Alors, on va revenir à Guy Marchand, né à Belleville, dans le Paris de Marcel Carnet. Alors, automatiquement, ça nous met des images en noir et blanc, ça nous met un monde de poésie, un monde qui n'existe plus. Ces rues avec les pavés en bois que vous évoquez, on démarre tout de suite dans un monde de représentation cinématographique presque.
C'est-à-dire que quand le cinéma était tellement important pour meubler l'inconscient des petits cons qu'on était, après la guerre en plus, et on a vite de rêver, avide de plein de choses qu'on ne connaissait pas, le cinéma est resté pour nous imprimé en noir et blanc dans nos têtes. C'est vrai que même la réalité a toujours eu cet aspect cinématographique qui s'est imprimé plus que la génération d'avant, qui était plus littéraire, plus... Nous, on fait partie de cette génération des enfants de la guerre qui ont été avides de rêver dans des salles obscures.
Alors, on va parler peut-être de votre père, bricoleur génial. Il a fait les arts et métiers. Il était le soir régisseur à Bobino. Alors, c'est tout un programme.
Oui, il était surtout ferrailleur. Hein. Bon, parce qu'il voulait pas travailler pour quelqu'un. Il avait effectivement fait des études d'ingénieur, mais il ramassait du vieux ferraille. Enfin, mon père est un vrai, 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 vrai rebelle, anard. ce qui m'a influencé énormément. C'était la liberté pour lui, ça a été son grand enseignement pour moi. Il a été communiste, bien sûr, déçu. Il a été après, il a d'abord été un communiste déçu. C'est-à-dire que, comme je le dis dans le livre, il voulait décevoir Bianco. Hein, il m'a influencé sur cette marginalisation et cette recherche permanente de la liberté plutôt que des biens matériels. Et j'ai pas été ambitieux à cause de lui. J'aimais bien la facilité de ce métier, cette facilité pour gagner de l'argent en s'amusant, en chantant, en jouant. On peut trouver un métier plus marrant que ça, plus lucratif. On joue la comédie, on le ferait presque gratuitement, puisqu'on le faisait dans le grenier de ma grand-mère. On chante, on le fait facilement, même dans son bain, et pour ça, on vous paye. C'est lui qui m'a amené à ça, à cette espèce de facilité. La vie devient facile. Et pour lui, elle n'était pas si facile que ça, parce qu'il m'a fait quand même rentrer dans une sableuse un jour. La sableuse de Jean Gabin, dans Le Jour se lève, vous savez, où il faut boire du lait pour pas attraper la silicose. Pour savoir qu'il y a des métiers difficiles, des métiers durs, que ce sera toujours plus difficile de monter les sacs de sable au 10e étage que de jouer la comédie ou même d'avoir mal à la tête pour apprendre un rôle. Il y a des métiers durs, il y a des métiers difficiles. Je dis souvent que de jouer la comédie, c'est difficile comme de mettre un fil dans une aiguille. Mais oui, mon père m'a influencé. C'est vrai que cette recherche de liberté m'a empêché d'être dans le troupeau, dans tous les troupeaux.
Finalement, c'est positif, vous aimez bien.
J'aime bien ça.
Cette indépendance.
Ça pourrait s'arrêter demain. Je peux vivre dans une roulotte demain. J'ai toujours envie de rêver, de liberté. Ça m'empêchait de vieillir. J'étais en retard sur la réussite, mais en retard sur le vieillissement. C'est une philosophie qui n'est pas tellement qui construit pas une carrière, mais qui peut construire une vie.
Et finalement, une sorte de bonheur.
C'est vrai, on est dans une sorte de bonheur. On a toujours, bon, bien sûr, les moments dépressifs que la vie vous procure à chaque... La dépression des jeunes gens romantiques. Ensuite, la dépression de l'homme mature qui entre dans la vieillesse. Mais elles sont courtes. Et on voit le bout du tunnel très vite.
Et puis, votre mère, d'une beauté inconcevable, vous évoquez à son propos Sophia Loren cet univers de femmes autour d'elle qu'elle coiffait parce qu'elle avait du talent dans les doigts. Et ses parfums et ses fourrures, c'est toute l'atmosphère là. Je revois un peu l'atmosphère de Nestor Burma avec les parfums, avec la clarinette, avec la sensualité du chat, l'épaisseur d'une atmosphère de sensualité pleine de non-dits. Toutes ces choses un peu vaporisées et qui sont très, très présentes.
Les odeurs de femmes m'ont accompagné. L'odeur de ma maman. Moi, je ne suis pas devenu homosexuel à cause de cet attachement pour ma mère. Au contraire, elle m'a appris à apprécier les femmes. Elle, d'abord, quand elle se penchait sur moi, le Chanel numéro 5 inondait mon petit lit d'enfant malade, vous voyez. Donc je me suis régalé des odeurs des femmes. Ma mère était toujours là pour m'apprendre. Elle m'a poussé vers les femmes. Elle m'a pas retenu, vous voyez. Elle m'a pas protégé.
Elle a plaidé la cause des femmes.
Elle m'a pas protégé. Elle m'a appris à les apprécier.
Alors, vous avez parlé d'enfants malades, et qu'est-ce qui vous a redonné la santé? C'est les chevaux. Et voilà encore à une autre autoroute de bonheur dans votre vie.
Oui, les chevaux, les tapis magiques. Je dis que les chevaux sont... Tous les chevaux sont des licornes, sont des tapis magiques. J'avais attrapé la tuberculose comme tous les enfants de la guerre. Mmh. On n'était pas bien nourris, on a manqué de protéines. Mmh. Et donc, on ramassait les chewing-gums déjà mâchés dans la rue. Je cassais les noyaux d'abricots dans la rue ou dans les décharges publiques. C'est pas parce que j'étais mal nourri, mes parents m'adoraient. J'étais, disons,
c'était
un pauvre.
La rue,
on était des pauvres parmi les misérables. Mmh. Mmh. Mais on était heureux. Hein. Moi, j'ai eu une belle enfance. Belle enfance. J'aurais pas voulu avoir une autre enfance que ça. Parce qu'il y avait une liberté totale. Les terrains vagues étaient des endroits de liberté. La rue de Belleville était une rue de liberté. Et bref, bon, bah, j'ai eu la tuberculose, quoi. Une grosse primo-infection, comme on disait, c'était carrément... quand on me fait une radio, on voit à la base de mon poumon droit une belle calcification, une belle décoration, puisque les cicatrices sont les plus belles décorations qu'on peut porter. Et on m'a envoyé dans une ferme. Parce qu'à l'époque, les sanatoriums, c'était pour les riches, hein, la plupart du temps, enfin quand même, ont déjà des enfants malades, on les envoyait déjà à la campagne pour voir ce qui se passait. Est-ce que ça deviendrait plus grave ou moins grave? Est-ce que l'air allait les sauver? Le bon beurre, le fromage de Normandie, tout. Et ben moi, ça m'a sauvé. J'étais des gens charmants chez Maître Vanier, j'allais en vacances, enfin c'était des vacances pour moi. Et il m'a mis sur un percheron, sur un cheval. Et là, cette espèce de chaleur, de sérénité, de bonté de l'animal. C'est quand même, les chevaux sont quand même des animaux avec lesquels on a fait notre histoire. Et nos frontières. On a fait toutes les frontières de l'Europe avec des morts de chevaux. Et des canons. Mmh. Et j'ai toujours, dès que je monte sur un cheval, le temps s'arrête. Je ne sais même pas à quelle époque je suis. Je repars en arrière. Je ne sais pas à quelle époque je suis.
En prise directe sur la nature, sur l'intemporel.
Sur la nature, voilà. Sur l'intemporel. Mmh. Mmh. J'ai besoin d'animaux autour de moi.
La musique.
Eh bien oui, ben, la musique, comme je suis un animal qui aime les sons, mon père adorait la musique, avait beaucoup de disques 78 tours, il aimait beaucoup le jazz. Un jour qu'il avait eu un problème pour se faire payer une réparation automobile, il a menacé le type qui a donné sa clarinette en paiement. Donc j'ai pas eu à choisir, j'aurais bien voulu jouer de la trompette, après j'ai joué un peu de guitare et tout, mais là... C'était une clarinette Selmer en si bémol, et j'ai commencé à souffler là-dedans pendant 10 ans.
Quoi. Dans un placard.
Dans un placard pour pas gêner les voisins. J'ai fait 10 ans de placard. Voilà.
Et personne ne vous a indiqué. C'est comme ça, autodidacte.
Il y a un musicien de la garde républicaine qui m'a donné quelques technique un peu, après ça a été Gossesse, des musiciens de jazz. J'ai appris sur le tas, c'est comme le cheval, comme l'équitation, hein. j'ai appris comme ça. J'ai appris à jouer du piano, j'avais pas de piano à la maison. Quand je voyais un piano, je pianotais. Quand je voyais un cheval, je montais dessus.
Alors la musique, il y a Basin Street Blues et puis Royal Garden Blues, puis ça s'est réalisé 30 ans après avec Benny Vassar. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment extraordinaire?
Je me suis aperçu que les blues pouvaient être rapides. C'était seulement une façon de les accompagner dans le jazz. Hein? Si bémol, mi bémol, si bémol, si bémol 7. Ça commençait tout comme ça, ou en fa, ou en do. Et le jazz, ce côté intemporel du jazz m'a plu. Et même la dérive du jazz vers le rhythm and blues et même vers le rock and roll, mais le rock and roll d'Elvis Presley, le rock and roll. Après, j'ai lâché parce que c'était simplifié à l'extrême. Il y avait une une violence, quelque chose d'intéressant, une jeunesse. Mais moi, j'ai coupé les ponts dès que ça n'était plus du rhythm and blues. Je suis un puriste, hein, mm-hmm. un vrai snob de la musique. Mm-hmm. Hein, ce qui fait que je suis pas devenu une star comme tous les rockers français qui, pour moi, je méprisais littéralement leur façon de chanter en français et de dire la mûre comme Hallyday ou souvenir, tout, pour imiter les sonorités américaines. Mm-hmm. Non, moi, je chantais en anglais avec mépris, et, ce qui fait que je suis resté complètement en arrière. Et après, bon, là, après, j'ai fait des chansons de variété par provocation. Comme je parlais espagnol, dans le nord, on parlait beaucoup espagnol, hein, les Flandres espagnoles. J'ai chanté beaucoup de chansons espagnoles. J'aimais bien le côté chanteur de casino. Mmh. Voilà, hors saison même.
Mmh. Alors, bossa nova, rumba, mélodie latine.
Oui, faire danser.
Voilà. Et si la passionnata.
J'aimais pas le message. Non, la passionnata, c'est autre chose, c'est l'armée. La passionnata, c'est la Légion étrangère. Mm-hmm. C'est. Je me suis pas engagé à la Légion étrangère, mais je voulais pas aller dans l'armée. Donc, j'ai fait tous les stages pour pas partir. Pour pas être le dernier mort de la guerre d'Algérie. Manque de peau. Je me suis retrouvé sous-lieutenant parachutiste au moment du punch. Ce qui fait qu'on m'a envoyé dans un régiment disciplinaire. Mm-hmm. Enfin, c'était pas un régiment disciplinaire, c'était la Légion. J'ai jamais regretté, parce que si je peux être un peu antimilitariste, la Légion est ma famille.
On peut, sans transition, passer au sport auto.
Oh non, ça c'est pareil, je vois les voitures comme des boîtes de bière, à part quelques vieilles américaines, j'ai jamais bien aimé les automobiles. Quelques motos m'ont intéressé, et vieilles motos. Plus la technique, ça c'est un peu comme le rock'n'roll. Mm-hmm. Là aussi, je suis un vrai snob de la mécanique. Mm-hmm. J'aimais les vieilles mécaniques romantiques. J'aimais Royal Enfield, la Triumph de Marlon Brando dans l'équipée sauvage ou de McQueen.
Le dandysme.
C'était déjà du dandysme, voilà, hein, je suis désolé. Voilà. C'était déjà.
Troggy and not Charlie.
Non, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, ni Froggy ni Charlie.
Et vous aviez quand même un texte, une Bible.
J'aimais bien. J'avais rencontré beaucoup, on a beaucoup parlé de ça avec Philippe Moiret. J'aimais bien la philosophie des dandys du 18e siècle, du 19e siècle, c'est-à-dire des gens dont on pouvait pas se moquer de leur dentelle parce qu'ils sortaient vite leur épée, les mousquetaires, mais ça les empêchait pas de s'occuper de leur dentelle. Et j'aimais beaucoup cette philosophie qui s'intéressait plus à la couleur de ses cravates plutôt qu'à l'existence de Dieu. Une espèce de philosophie futile.
La légèreté,
en fait. Et suicidaire. Celle de Brummel, qui s'habillait chaque jour par rapport à la couleur des feuilles de son jardin.
Mmh. Le cinéma.
Et bien, le cinéma, je l'abordais de la même façon, avec futilité. Ça faillit me coûter cher. Parce que là aussi, je ne suis pas devenu une star. Mais on n'arrête pas de me découvrir. Et puis, alors, il fallait faire attention, parce qu'on n'était jamais à l'abri, avec moi, d'un triomphe. Je pouvais avoir des Césars, un Emmy Award à Hollywood, des prix comme ça. C'est très prétentieux, hein, ma trajectoire. Hein, d'être comme ça, marginal, et puis tout d'un coup, alors que les gens ne vous disent pas bonjour, les obliger à vous dire bonjour, parce que tout d'un coup, vous venez d'avoir une grande récompense. Mais qu'ils n'arrivent pas à vous situer et ni à vous mettre une étiquette. Mmh. C'est mon luxe, faut me le laisser. C'est vrai que j'ai pas joué le jeu. Je l'avoue humblement.
Ça tutoie quand même la légende autour de vous. Vous êtes un mythe.
Pas vraiment, parce que il y a plein de jeunes qui me connaissent pas et puis qui me prennent pour un vieux ringard. Mais le terme ringard est souvent employé par des gens qui le sont encore plus que vous.
Alors, donc ce livre. ce livre nous fait voyager dans votre itinéraire, dans votre vie, dans votre parcours terrestre. Comme j'ai parlé, plein de noblesse, de poésie, de légèreté. Et il y a ces femmes, ces actrices qui ont dans le livre, vous dites, qui m'ont dorloté.
Mon materné. Les grandes stars, tout, Isabelle Huppert, Marie-Christine Barrault, j'ai travaillé avec les plus grandes, Fanny Ardant, m'ont tout de suite pris sous leur aile, parce que j'ai toujours fait allégeance aux femmes. Je suis un faux macho, ça c'est alors absolument faux macho. Elles ont toujours voulu me protéger.
Et Nestor Burma, last but not least.
C'est intéressant aussi, ça, comme rencontre, hein, parce que c'est complètement dérisoire comme personnage. Même, on se demande comment, dans un pays cartésien, sur des chaînes nationales, on a laissé cette espèce de personnage, ce garnement, s'installer pendant 10, 12 ans, 11 ans. Bon, ils ont essayé de le virer souvent. Hein. Mais ce sont des femmes qui l'ont viré.
Mais c'est resté quand même 10 ans.
Ce sont des femmes
c'est
qui
resté
l'ont viré.
Plus de 10 ans.
Parce qu'elles se sont trompées sur le personnage.
Et pourtant, je.
Ce sont des femmes
qui
l'ont trouvé misogyne, elles l'ont trouvé.
J'adore ce personnage.
Oui, mais ça, bon, il était fasciné par la lingerie féminine, légèrement pudique. Mm-hmm. Il n'y avait pas de passé, pas d'avenir, pas de famille.
Et puis
tout ça, c'est les cahiers des charges de la télévision française refusent ça. C'est grâce à de grandes personnalités comme Hervé Bourges ou des gens comme ça que j'ai pu vivoter. Parce que c'est un il était en danger permanent, mais il faisait un très bon audimat.
Oui.
Et alors, au moment où les audimats ont commencé à être qualitatifiés, voilà, mm-hmm. C'est le mot. C'est-à-dire qu'on a dû savoir ce qu'il y avait dans les audimats. Ah, alors là, la ménagère de moins de 50 ans avait peur de Nestor Burma. Il y avait des jeunes et des vieux. Mais la ménagère...
Il y avait une odeur de
elle
sucre,
se sentait,
peut-être.
Oui, elle disait, mais enfin, il se fout de nous ou pas et tout. Mais non, mais bon, oui, un peu, puisqu'il entrait dans tous les milieux, il respectait rien, que ce soit le milieu homosexuel, dans la fièvre au marais, que ce soit pas de bavard à la muette chez les riches, il a jamais rien respecté, Nestor Burma, c'était un garnement.
Mais ça vous collait tellement bien, ça collait tellement trop, bien à vous.
Trop bien.
Vous y étiez
beaucoup
bien.
Trop,
ça
beaucoup
vous
trop.
Pas.
Beaucoup trop. Beaucoup trop. Hein, beaucoup trop. Parce que ça m'empêchait de faire des bons rôles de composition comme j'ai fait. Là, j'ai fait un père au chômage italien, le père de Romain Duris. Là, tout d'un coup, c'est plus facile pour moi à faire ça. Boum, je suis nommé au César tout de suite. Je fais un mari trompé dans coup de torchon. Pouf, je suis nommé au César tout de suite. Non, coup de foudre. Vous voyez, tandis que Nestor Burma, c'est beaucoup plus difficile. Il est léger, il surfe.
Reviendra-t-il ?
Non, je pense pas. Ils en ont peur. Ils ont raison. Ils ont raison. Même sur le plan politique, hein, ils faisaient peur. Hein. Il était à Nard, tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Vous n'avez pas vu celui qui... Puisque on est ici, dans cette radio, celui qui s'appelle... qui est tourné rue des Rosiers.
Oui. Oui, je me souviens.
Oh, il est génial.
C'était une atmosphère.
Me permettait de dire des choses terribles.
Mais bien sûr.
Terribles. Entre les lignes.
Oui,
de lire des lignes du maréchal Pétain et tout ça, mais entre les lignes. Mm-hmm. Ça a fait un scandale dans une France qui a le portrait du maréchal Pétain dans ses greniers. Vous vous rendez compte?
Oui.
À chaque fois, il y avait les oreilles qui se dressaient. Hein.
Est-ce qu'on peut les trouver en vidéo?
Ah oui.
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 Guy Marchand, ce fut un bonheur d'évoquer avec vous ce livre qui vient de paraître aux éditions Michel Lafon, Le Guignol des Buttes-Chaumont. Merci beaucoup.
Mais
et
c'est
à
moi qui vous
très
merci.
Bientôt, j'espère.
J'ai parlé de moi, vous rendez compte? Mais quelle impudeur.
Mais ça concerne des millions de personnes qui aiment votre musique et qui aiment vos personnages. Vous avez campé près de 60 personnages, j'ai lu. différents.
Oh, je fais une centaine de films.
Une centaine de
plus
films
de 100.
Impressionnant.
Plus de 100. Mais le livre, là, si vous aimez la musique, oui. Vous pouvez le lire. Parce que j'espère que j'ai mis une certaine musique dedans.
Il y a une vraie musique dedans et un rythme et les mots sont bien choisis. Et il y a beaucoup de pudeur et quand on lit, on voyage. On voyage.
Ah, ben c'est ma seule prétention.
Merci beaucoup, Monsieur
Guimarchand. C'est moi qui vous remercie.
Merci.